Bonjour à tous. Donc moi, aujourd'hui, je vais intervenir essentiellement avec ma casquette de chercheur, même si je ne peux pas laisser ma casquette de militant de côté. Je vais vous parler de certains résultats de l'enquête VESPA 2, qui continue, c'est le genre de grande enquête qui continue à faire l'objet d'analyse de la part des équipes. Je voudrais préciser que ce projet VESPA 2, c'est un projet qui vient dans la suite de VESPA 1, qui avait été réalisé en 2003. Ce sont des grandes enquêtes représentatives faites auprès des personnes vivant avec le VIH suivies à l'hôpital en France, donc VESPA 1 en 2003, VESPA 2 en 2011. Et elles sont menées principalement par deux équipes, l'équipe de France LERT qui est basée à Villejuif, en région parisienne, et mon équipe qui est basée dans le sud de la France, à Marseille. Alors pourquoi est-ce que on a voulu refaire une enquête VESPA 2? Parce que déjà, avoir une enquête représentative, c'est quelque chose qui sert un peu, qui est utile pour les politiques publiques, utile pour les associations. Ça donne des chiffres qui ont une validité générale. Et après, quand on veut faire une enquête sur telle ou telle sous-population, on peut toujours se comparer à VESPA. Donc ça sert un peu d'étalon. On l'a refait en 2011 après l'avoir fait en 2003 parce que on savait que le contexte médical s'était encore amélioré. On savait que les gens allaient quand même mieux. C'était un certain nombre d'enquêtes non représentatives qui nous le disaient. On savait aussi que selon les catégories épidémiologiques, on n'avait pas forcément les mêmes résultats. Et on voulait continuer à regarder le lien entre santé, conditions de vie, comportement, comme on l'avait fait en 2003, et pouvoir, dans la mesure de possible, pas toujours, pouvoir se comparer avec ce qui avait été fait en 2003. Donc, en fait, je vais vous présenter très rapidement l'enquête, la méthodologie d'enquête. Je vous parlerai des différents groupes. Je vous décrirai brièvement quelques indicateurs socio-économiques et d'état de santé, parce que pour comprendre les comportements sexuels, c'est quand même important aussi de savoir cela. Et puis, je vous donnerai quelques résultats qu'on a déjà obtenus sur les comportements sexuels, les questions de comportement et désinhibition. Et je terminerai avec des pratiques de réduction des risques sexuels, notamment chez les HSH. Donc, l'enquête VESPA 2, elle a été menée en France essentiellement en 2011. Donc, elle a recruté plus de 3000 patients. Alors, vous savez, elle est représentative parce que, en fait, on a tiré au sort les hôpitaux pour pouvoir avoir un échantillon que ce soit vraiment au hasard qu'on décide. Tout est fait au sort, en fait. On tire au sort les hôpitaux, on tire en sort ensuite les médecins pour pouvoir enquêter les patients des médecins. Et après, on tire au sort les patients. C'est pas celui qui a envie qui répond. Il y a des gens qui peuvent avoir envie, mais malheureusement, ils ne seront pas tirés au sort. Et puis après, bien sûr, les gens peuvent refuser ou accepter de participer à l'enquête, mais on tire au sort le fait de proposer aux patients l'enquête. Et c'est ça qui fait vraiment la représentativité de VESPA. Alors, il y a trois outils d'enquête. Il y a un questionnaire qui est administré en face à face sur un certain nombre de thématiques sociodémographiques, comportementales, qui est assez long, qui prend environ trois quarts d'heure, qui est administré par un enquêteur qui a été formé et qui déroule son questionnaire. Il n'est pas question qu'il l'interprète, c'est très standardisé. Il y a également un questionnaire auto-administré pour certaines échelles où là, le patient est obligé de répondre lui-même, sans face-à-face. Et puis, il y a quelques paramètres médicaux qui sont remplis par le personnel médical. Alors après, évidemment, on a toute une technique pour redresser, pondérer en fonction d'un certain nombre de critères pour s'assurer de la représentativité, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans la technique, sauf si ça vous intéresse. Alors on a, pour cette enquête, je vais donner quelques définitions qu'on a appliquées, en fait. Donc les HSH, on a considéré, nous, la catégorie HSH, ce sont les hommes qui ne se définissent pas hétérosexuels ou qui ont eu un rapport sexuel avec un homme au cours des 12 derniers mois. Il peut y avoir des hommes qui se définissent comme hétérosexuels, qui ont eu des rapports homosexuels il y a plus longtemps, Ceux-là, on ne les a pas considérés comme HSH. On n'a pas fait ça au hasard, c'est parce que quand on a regardé leurs caractéristiques, on a trouvé qu'elles ressemblaient plus à celles des hétéros, alors que quelqu'un qui se définit comme hétéro et qui a des pratiques homo dans l'année, pour beaucoup de critères, il ressemble beaucoup plus au HSH identitaire. Donc on a fait la classification de cette façon-là. Bon, les usagers de drogue, on a considéré que c'était tous les individus qui avaient au moins une fois injecté dans leur vie, que ce soit dans quelque chose de récent ou d'ancien. Et pour les migrants, on a vraiment mis à part les migrants d'Afrique subsaharienne, parce qu'on a regardé les migrants d'autres, il n'y en a pas beaucoup, mais les migrants d'Asie, par exemple, ressemblent beaucoup plus à la population hétérosexuelle séropositive qu'aux migrants d'Afrique subsaharienne qui ont des caractéristiques spécifiques. Donc on n'a pas voulu les diluer avec d'autres migrants qui nous paraissaient mieux d'isoler. Et puis les autres catégories, c'est essentiellement des hétérosexuels, soit pour la plupart nés en France et pour une minorité nés à l'étranger, mais pas en Afrique subsaharienne. Alors sur cette diapositive, vous voyez l'évolution socio-épidémiologique entre VESPA 1 et VESPA 2. Vous voyez que pour les HSH, ben, on a toujours à peu près la même proportion, mais on diminue fortement la proportion d'usagers de drogue en VESPA 2 par rapport à VESPA 1, puisque l'épidémie est ancienne et qu'il y a beaucoup moins de nouveaux qui arrivent dans cette catégorie. Par contre, on va augmenter de manière très importante, on double la proportion de migrants d'Afrique subsaharienne entre 2003 et 2011. Voilà, c'est essentiellement ça, les différences en termes de structure de la population VESPA quand on compare les deux enquêtes. Alors au niveau du profil socio-économique, on a une situation qui est plutôt stable, parfois en certaines dégradations sur certains indicateurs. Vous pouvez voir sur la nationalité qu'il y a un petit peu moins de Français de naissance et plus d'étrangers non Union européenne donc, qui vont arriver avec des problématiques sociales, de droit au séjour, etc., qui vont être plus complexes. Vous voyez au niveau de l'emploi, il y a peut-être un petit peu plus d'actifs en emploi, mais il y a aussi, en termes de... c'est quand même assez... il y a le chômage aussi, puis avec des actifs sans emploi qui ont augmenté aussi. Donc ça reflète l'évolution économique de la crise, hein, on peut dire. Et puis au niveau de la situation financière perçue, où les personnes avaient à répondre comment elles se sentaient par rapport à leur pouvoir d'achat, on voit que la situation s'est légèrement dégradée puisqu'il y a moins de personnes qui pensent que leur situation est bonne. Donc vous voyez, c'est pas, les différences sont significatives parce qu'il y a une grande puissance statistique, mais les différences ne sont pas non plus énormes entre 2003 et 2011 quand on regarde les chiffres. Alors là, bien sûr, les situations sont très différentes en fonction des groupes socio-épidémiologiques. Et globalement, les situations, les indicateurs économiques sont meilleurs pour les HSH et moins bons. Ces indicateurs sont moins bons pour tous les autres groupes. Et quels que soient les groupes socio-épidémiologiques, il y a toujours des avantages par rapport des femmes par rapport aux hommes. Ça aussi, vous allez me dire, c'est pas un scoop, mais malheureusement, on le voit très clairement dans cette enquête où les femmes sont plus précaires que les hommes, et ceci, quels que soient les groupes. Alors, au niveau de l'état de santé des personnes vivant avec le VIH, on a de très bons résultats thérapeutiques, je vous l'ai montré, notamment grâce au fait qu'il y a des nouvelles molécules maintenant en 2011 qui sont... on a beaucoup plus de choix au niveau médical. On a une prise en charge qui commence à être quand même de plus en plus précoce, disons de moins en moins tardive. On avait quand même beaucoup de prise en charge tardive et qui a tendance à se réduire un peu. Mais du coup, les questions qui se posent aujourd'hui vont plutôt être sur les comorbidités et sur le fait qu'on a des personnes qui sont infectées depuis très longtemps et avec l'apparition du vieillissement chez ces personnes. Alors, on le voit dans les chiffres, hein. Vous voyez que la médiane en termes d'âge pour la population VESPA 2, elle est de 48 ans, alors elle était de 41 ans, donc on voit que même s'il y a des nouveaux et des jeunes qui s'infectent, globalement, les séropositifs sont plus vieux qu'il y a quelques années. L'ancienneté du diagnostic également augmente malgré l'arrivée des nouveaux cas dans la file active. On a une médiane d'ancienneté qui est de 12 ans au lieu de 10 ans. Et on avait 83% de gens qui étaient sous traitement en 2011. On est maintenant à plus de 93% de gens qui sont sous traitement, ce qui est à dire quasiment toute la file active dans cette enquête. Alors là aussi, on a des disparités en fonction des groupes sociaux épidémiologiques. Et là, c'est en défaveur des migrants, que ce soit les migrants hommes ou les migrants femmes. Ces personnes sont moins souvent traitées. Bon, elles sont quand même traitées, 88%, c'est pas mal, mais il y a une différence significative avec les autres groupes. Les migrants sont souvent diagnostiqués plus récemment. Et les femmes ont tendance à être plus jeunes aussi. C'est là qu'on va trouver une proportion de jeunes femmes dans cette catégorie. Alors, au niveau des indicateurs biomédicaux, on confirme ce que l'on pressentait, c'est-à-dire que le taux de CD4 est bien meilleur, enfin, tendance à être plus élevé maintenant, donc les gens vont mieux d'un point de vue immunitaire. Et la charge virale, elle est contrôlée chez 95% des personnes, alors que ce n'était seulement que 77% des personnes en 2003. Donc des indicateurs biomédicaux qui s'améliorent. Au niveau des comorbidités, bon, je vais pas faire l'idée n'était pas de faire la liste des comorbidités, mais celles qui sont les plus fréquentes. Donc on aura regardé ici la co-infection avec le VHC. Donc là, c'est extrêmement fréquent parmi la population des usagers de drogue, avec plus de 85%. Et la dépression est également fréquente dans tous les groupes, notamment les HSH, les usagers de drogue. Et elle est plus fréquente, bien sûr, la dépression chez les femmes et chez les HSH. La pathologie cardiovasculaire est également une comorbidité importante et on commence maintenant même à avoir des cancers dans les 5 dernières années. Donc, on va attaquer la question qui nous intéresse le plus, qui est la question des comportements sexuels. Donc, on est dans un contexte décrit par les autorités de santé comme une incidence qui est toujours élevée, qui ne diminue pas chez les HSH. Ça, c'est les enquêtes de l'INVS qui nous montrent ça régulièrement chaque année. Donc, la question qui va vraiment se poser, c'est est-ce que ça vient des personnes vivant avec le VIH qui auraient des pratiques sexuelles extrêmement... qui sont traitées, donc qui sont dans VESPA. Est-ce que c'est cette population qui, d'un point de vue comportement, va être responsable de la dynamique de l'épidémie, ou est-ce que c'est autre chose? C'est un peu la question qu'on va essayer de regarder. On va également comparer les indicateurs recueillis en 2011 avec ceux recueillis en 2003. Et puis, troisième élément de contexte, c'est la question du TASP, du traitement comme prévention. Comment est-ce que ça a tendance à s'intégrer aux stratégies de prévention? Est-ce que ça a un impact sur les comportements sexuels? Et est-ce que ça s'accompagne d'une augmentation des pratiques non protégées par le préservatif et d'une désinhibition comportementale, ce qui est la crainte de beaucoup de personnes? Alors d'abord, quelques diapos pour vous caractériser un peu, de façon générale, la sexualité des personnes vivant avec le VIH. Donc là, on n'avait pas exactement la même question, donc on n'a pas pu comparer avec 2003. Mais vous voyez quand même qu'il y a, c'est pas 100% des personnes vivant avec le VIH qui ont une vie sexuelle. Et que vous avez des taux de personnes sexuellement actives qui, parfois même bas dans certains groupes, hein, qui peut descendre, notamment chez les femmes, où il y a pas mal de femmes qui ont choisi l'abstinence et qui ont arrêté leur vie sexuelle à cause du VIH. On avait déjà vu ça avec des questions un petit peu différentes en 2003 avec VESPA 1, mais là on voit encore que il y a pas mal de gens qui ont arrêté leur vie sexuelle, et même chez les HSH qui sont pourtant les plus sexuellement actifs, il y a 20% d'HSH qui n'ont pas de vie sexuelle, en tout cas dans les 12 derniers mois. Là aussi on a des personnes qui ont un partenaire principal. C'est une petite moitié qui varie selon les groupes, mais il y a quand même encore une petite majorité, je veux dire. Il y a encore une petite moitié de personnes qui n'ont pas de partenaire principal. Et les personnes qui ont des partenaires occasionnels, ça va être essentiellement les HSH. Et c'est aussi les HSH qui ont le plus de partenaires sexuels, quand on s'intéresse à ceux qui sont sexuellement actifs. Il y a une différence majeure en nombre de partenaires chez la HSH par rapport aux autres groupes. Alors, chez les personnes en couple, on a pas mal de couples séro différents, quand même, notamment dans tous les groupes. Hein, vous voyez que ces groupes vivent en couples séro différents, pour beaucoup. Et une grande majorité, mais pas tous, leur partenaire est au courant de leur séropositivité, en ce qui concerne le partenaire principal. En ce qui concerne donc le partenaire en dehors du couple, bien sûr, ça corrobore la diapo d'avant, plus de la moitié, c'est pour les HSH. Et là aussi, c'est là où on a le plus de partenaires extra-conjugaux. Alors, les partenaires, en ce qui concerne les partenaires occasionnels, c'est là aussi, on retrouve chez les HSH qu'il y a le plus de partenaires occasionnels, avec le plus de rapports au cours des 4 dernières semaines, en termes de vie sexuelle, et tous les indicateurs d'activité vont dans le sens que c'est les HSH qui ont une vie sexuelle la plus active par rapport aux autres groupes. Alors, on a bien sûr voulu regarder l'utilisation du préservatif. Et quand on dit utilisation du préservatif, les questions qu'on a mises dans le questionnaire, c'est vraiment différencier l'utilisation systématique du préservatif par rapport aux autres. C'est pas non-utilisation, c'est l'utilisation non systématique du préservatif. C'est comme ça qu'on classe les individus. Donc, sur la gauche de la diapositive, on est avec le partenaire principal dans les 12 derniers mois. Sur la gauche de la diapositive, ce sont les hommes hétérosexuels. À droite, ce sont les femmes hétérosexuelles. Et vous voyez que c'est pas si évident que ça. Dans un couple séroconcordant, vous avez à peu près la moitié des couples séroconcordants, donc tous les deux sont séropositifs, qui utilisent le préservatif. Moi, je trouve ça même assez miraculeux qu'ils utilisent le préservatif dans un couple où tous les deux sont séropositifs. Mais et bien sûr, dans un couple sérodiscordant, on a des chiffres qui sont plus élevés sur l'utilisation systématique du préservatif. Chez les femmes, on a des résultats qui sont un petit peu différents, mais on retrouve quand même une forte proportion de femmes qui utilisent le préservatif, même au niveau de couple, au niveau de couple séroconcordant. Il y a encore 20% de femmes qui l'utilisent aussi. Alors là, on regarde avec les partenaires occasionnels, et là, on voit que l'utilisation du préservatif est quand même beaucoup plus élevée avec partenaires occasionnels, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Là, on est dans la population hétérosexuelle. Quand on regarde chez les HSH, alors là, on a pu comparer VESPA 1 et VESPA 2 sur cette diapositive. Alors, il faut regarder, vous regardez la taille globale des histogrammes. Vous avez à gauche pour les pratiques de fellation, à droite pour les pratiques de pénétration anale, et on n'a pas l'impression qu'on a une évolution très importante. Un petit peu, il y a un petit peu plus de pratiques sans préservatif pour la fellation, on passe de 79 à 86%. On gagne également 2% pour la pénétration anale. Ce qui est plus intéressant sur cette diapositive, c'est la partie rouge foncé. La partie rouge foncé, on a mis l'usage non systématique du préservatif parmi la barre pour ceux qui ont une charge virale qui est détectable. C'est-à-dire que le rouge foncé, c'est la proportion de gens qui sont potentiellement transmetteurs. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment une baisse entre les deux enquêtes. C'est-à-dire que le message de ces diapositives, c'est que globalement, au niveau comportement, ça ne change pas grand-chose, voire ça se dégrade, entre guillemets, si on peut parler de ça de dégradation. Mais au niveau risque de transmission, grâce à l'efficacité supplémentaire des traitements aujourd'hui, d'une charge virale qui est mieux contrôlée, en termes de risque de transmission pour autrui, ça s'améliore. Donc le comportement qui peut changer est contrebalancé de manière beaucoup plus positive par une meilleure efficacité des traitements, qui fait que même si les gens ne se protègent pas complètement, l'impact de ces changements de comportement est sans doute annulé par l'effet des traitements. Avec les partenaires occasionnels, c'est également à peu près la même chose qu'on trouve. Une augmentation des pratiques de fellation, un petit peu, de 76 à 80%. Mais vous voyez, entre VESPA 1 et VESPA 2, la proportion de gens qui éventuellement sont transmetteurs parce que pas contrôlés par les traitements, dans cette catégorie, passe de 28 à 7%. Et on a la même chose avec la pénétration anale, 23% de pratiques non protégées. Bon, on baisse un petit peu là aussi à 18%, mais on baisse surtout de 8% à 4% en regardant les populations qui sont vraiment transmetteuses. Donc là, je voudrais regarder justement, m'intéresser plus à la question de la désinhibition. Donc vous savez que vous en avez parlé, je sais que vous avez eu toute une journée là-dessus sur le TASP. On sait que la déclaration suisse dit que les personnes indétectables ne sont plus transmetteuses et qu'une des craintes de ça, c'est que du coup, il va y avoir une désinhibition comportementale, et notamment chez les HSH, avec cette désinhibition pouvant contrebalancer l'effet de réduction des risques majeurs des traitements et faire que s'il y a vraiment, vraiment beaucoup plus de comportements à risque, et bien à ce moment-là, on va perdre l'intérêt de cette baisse de transmission. Donc on a voulu regarder dans VESPA, finalement, comparer les gens qui avaient les critères, entre guillemets, les critères suisses, c'est-à-dire qui étaient indétectables depuis longtemps et qui n'avaient pas d'IST, donc non transmetteurs ou faiblement transmetteurs, avec les autres en termes de comportement, en se disant est-ce que ceux qui sont, entre guillemets, en critères suisses, est-ce que ceux-là ne se mettent pas à avoir une sexualité absolument, disons, dans tous les sens et totalement désinhibée. Donc, on a pris dans VESPA les personnes dont on avait au moins la date de la dernière charge virale, donc ce n'est pas tout VESPA, mais presque, hein, 2638. Et vous voyez sur ce camembert, en orange, vous avez les gens qui ont les critères suisses. Donc, le critère suisse, nous, c'était pas 6 mois indétectables, mais 12 mois, parce qu'on n'était pas totalement sûr du mois. Donc, par sécurité, on a pris des gens qui avaient au moins un an de charge virale contrôlée et qui n'avaient pas d'IST. Donc, ça, c'est en orange, c'est ceux qui ont un faible risque de transmission à autrui. Et puis les autres catégories, alors vous voyez en rouge, c'est ceux qui ne sont pas traités, donc ceux-là, ils n'ont pas le critère suisse. En bleu, ils sont traités, mais ils n'ont pas une charge virale indétectable. En vert, ils sont traités, ils sont indétectables, mais pas depuis un an, donc ils ne sont pas dans le critère suisse. Et en violet, à 3,6%, c'est ceux qui sont indétectables, qui sont traités depuis un an, mais qui ont eu une IST dans la dernière année, donc hop, on les considère comme non suisses, enfin, non critère suisse. Alors là, on a regardé sur différents indicateurs. Donc FRT, c'est faible risque de transmission. On a regardé dans les différents groupes. Et alors, on voit, par exemple, on a regardé sur le nombre de partenaires. Là, chez les HSH, la seule différence, c'est qu'on voit qu'il y a un peu plus d'HSH qui n'ont pas de partenaires dans les 12 derniers mois chez ceux qui ont les critères suisses que ceux qui ne les ont pas. Donc ça va plutôt dans l'autre sens. Ceux qui ont les critères suisses ont tendance à être plus souvent abstinents. Chez les femmes, on voit qu'il y a un peu plus de femmes qui ont plus d'un partenaire, ceux qui n'ont pas les critères suisses. Donc c'est le seul indicateur qui va dans le sens de la désinhibition. Et pour les hommes non HSH, il n'y a pas de différence en termes de nombre de partenaires. Aucune différence. Alors on a regardé aussi les pratiques d'utilisation du préservatif systématique ou pas au sein des couples. Alors chez les HSH, on n'a pas vu de différence en termes d'utilisation du préservatif, qu'ils aient les critères suisses ou pas. Chez les femmes non plus. Chez les hommes non HSH non plus. Quand on regarde de façon globale, la seule chose qu'on voit, quand on essaie d'avoir la puissance maximum en poulant tout le monde, on voit simplement qu'il y a un petit peu plus de couples qui sont sexuellement inactifs chez ceux qui ont les critères suisses. Donc, critères suisses, ça, pour le moment, ça ne rentre pas dans l'idée que ça vous renvoie à une sexualité monstrueusement désinhibée. Au contraire. On a regardé également l'utilisation systématique du préservatif au cours du dernier rapport avec un partenaire occasionnel. Et quels que soient les groupes, on ne trouve aucune différence, là aussi, entre les gens qui ont un faible risque de transmission et ceux qui ne l'ont pas. Donc, pas de désinhibition qui a pu être démontrée. Donc, en fait, au total, on trouve qu'il n'y a pas de différence entre ces groupes. Donc, pas de désinhibition qui a pu être démontrée dans notre analyse. On a pu confirmer ces résultats en faisant une analyse multivariée, en ajustant sur un certain nombre d'indicateurs, l'âge des indicateurs de revenus, l'année du diagnostic, ça ne change strictement rien. Même en essayant de forcer dans le modèle un certain nombre d'indicateurs, les résultats restent stables, complètement stables. Et bien entendu, la limite de ce résultat, c'est qu'on est dans une analyse transversale, hein, on est dans VESPA, c'est une analyse transversale à un moment donné, et que pour affirmer l'absence totale de désinhibition, ce serait mieux d'avoir un schéma longitudinal, et il faudrait aussi d'autres types d'enquêtes plus longitudinales pour pouvoir affirmer totalement l'absence de désinhibition. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air probant, d'après VESPA 2, que le traitement comme prévention, enfin les gens qui sont dans ces critères-là, soient désinhibés, alors qu'on était quand même en 2011 et qu'on parlait déjà depuis un petit moment du rapport suisse et de tout le débat, toute la polémique qu'il y a pu avoir à ce sujet. Alors pour terminer, je voudrais juste vous donner quelques chiffres sur les pratiques de réduction des risques sexuels. Alors, les pratiques de réduction des risques sexuels, on s'est intéressé aux gens qui ne pratiquaient pas... on a exclu ceux qui étaient abstinents sur la pénétration, anale ou vaginale. Non, là, on était chez les HSH. On l'a fait aussi. Je ne vous ai pas montré les résultats chez les non-HSH. Donc là, sur la pénétration anale, on les a exclus, ceux qui étaient abstinents là-dessus. On a exclu ceux qui utilisaient systématiquement le préservatif, puisqu'ils sont déjà dans une pratique de réduction des risques, et ceux qui contrôlaient leur charge virale pour voir est-ce qu'il y a encore d'autres pratiques de réduction des risques qui sont utilisées chez les HSH. Et on s'est intéressé notamment au sérotriage, donc ceux qui cherchent des partenaires séropositifs pour ne pas transmettre, pour être entre séropositifs, et également au positionnement stratégique, c'est-à-dire ceux qui adaptent leur pratique, insertive ou réceptive, en fonction du statut sérologique du partenaire. Alors là, on a regardé avec le partenaire principal, vous voyez que il y a 58, quand on regarde l'ensemble des HSH de VESPA 2, il y en a 58% qui adoptent l'utilisation systématique du préservatif. Il y en a 19% qui n'ont pas de pénétration anale, donc ceux-là, ils sont dans une réduction des risques. 12% qui n'utilisent pas le préservatif, qui pratiquent la pénétration anale, mais qui sont une charge virale contrôlée, et donc qui ont le critère suisse. Hein, donc ceux-là, c'est déjà leur pratique de réduction des risques. Et il y en a 11% pour lesquels 6% pratiquent le sérotriage et 5% le positionnement stratégique. Quand on fait la même analyse avec le partenaire occasionnel, on trouve à peu près les mêmes résultats. Il faut voir qu'il y a quand même 1% avec les partenaires occasionnels qui n'ont aucune pratique de réduction des risques, c'est-à-dire ni le sérotriage, ni le positionnement stratégique, ni le contrôle de la charge virale, ni l'abstinence de la pénétration anale, ni le préservatif, bien entendu. Donc, ces pratiques de réduction des risques qu'on appelle un peu profanes, qui ne sont pas totalement une grande efficacité, qui ont une efficacité relative, sont finalement une minorité de personnes qui les utilisent. Par contre, deuxième message, c'est qu'il y a très peu de gens qui n'utilisent zéro pratique de réduction des risques. Donc, en conclusion, je voudrais simplement insister sur le fait que on voit une petite érosion de l'utilisation systématique du préservatif chez les HSH séropositifs. On voit une diminution de la transmissibilité des personnes vivant avec le VIH grâce au traitement antirétroviral. On voit une absence de désinhibition comportementale en lien avec les stratégies de traitement comme prévention. Donc ma conclusion provisoire, puisqu'il y a encore beaucoup d'analyses, c'est que nos résultats, ils plaident pas en faveur du fait que ce sont les hommes séropositifs ou les individus en général séropositifs qui sont dans le soin, qui sont aujourd'hui responsables de la dynamique de l'épidémie. La dynamique de l'épidémie, elle n'est pas là. Elle est sans doute, il y a beaucoup d'autres résultats qui vont dans ce sens, elle vient sans doute des hommes qui sont séropositifs, qui ne le savent pas, et qui contaminent les autres, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont séropositifs, dont tout l'intérêt des stratégies PrEP, etc. Mais ce n'est pas tellement les séropositifs connus et dans le soin qui transmettent, c'est ceux qui ne sont pas connus, d'où l'intérêt de stratégies de dépistage aujourd'hui pour cibler cette population et non pas forcément se focaliser sur le 100% de zéro risque pour les personnes qui connaissent leur statut sérologique et qui prennent des traitements. Merci.